Direct en jeu, la radio insolite. Alors là, pour commencer, c'est de l'insolite parce que je vais accueillir aujourd'hui une charmante jeune fille qui s'appelle Laetitia. Bonjour Laetitia.
Bonjour Alain.
Alors, tu as attaqué très très fort il y a quelques secondes, juste avant de démarrer, puisque tu m'as dit que l'une des règles de base dans le théâtre ou dans la radio, il faut parler aux accessoires. Qu'est-ce que tu me racontes là?
Et oui, ça c'est un truc que j'ai remarqué au fil de mes années d'expérience. Il faut être très respectueux avec les accessoires, les costumes et tout ce qui compose un spectacle, sinon ils te le rendent.
Non, non, mais attends Laetitia, tu n'as pas dit être respectueux, tu as dit qu'il fallait parler. Et en fait, je vais expliquer ce qui se passe. Vous savez que c'est toujours un peu original, c'est que j'avais oublié de brancher, comment dire, le câble sur l'ordinateur. Et tu m'as dit, il faut parler aux accessoires. Attends, comment tu fais? Je sais qu'il faut parler aux plantes, il faut enlacer les arbres, les embrasser, mais bon, parler aux accessoires.
Oui, ouais, mais tu sais, nous au théâtre, notre culture, c'est la parole. Donc, tout ce qui peut être prétexte à entraîner cette parole pour qu'elle soit toujours le mieux adressée possible, ben, on le prend et on joue avec.
D'accord. Bon, en tout cas, ça commence bien là. Bon, allez, bonjour à tous, direct en jeu de Radio Insolite, on fait encore de l'insolite. Moi, je trouve ça extraordinaire, je rencontre des gens et je croise des gens et j'appelle des gens qui me contactent et qui ont tous une richesse fabuleuse. Alors, la première question, c'est la plus difficile, Laetitia, es-tu prête?
Je vais essayer.
Attention, 3, 2, 1. Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Voilà.
Alors, qui je suis? Ben, je suis une femme.
Ah ben,
déjà
bravo.
Un grand programme.
T'as le droit.
Voilà, je fais la mise en scène depuis très longtemps. Je suis tombée dans le bain du théâtre à l'âge de 13 ans. Je vivais un très grand drame personnel, vraiment très très grave, puisqu'en fait, je me rendais compte que je ne pouvais plus jouer aux poupées Barbie. Et ça me terrassait intérieurement. Et puis à ce moment-là, j'ai rencontré le théâtre et je me suis rendu compte que j'allais pouvoir jouer aux poupées Barbie toute ma vie et d'un seul coup, ma vie est devenue très très belle.
Est-ce que ça veut dire que toutes les personnes qui jouent aux poupées Barbie, à un moment donné, se disent « j'ai une vocation artistique » ?
Ça veut dire que tous les enfants ont de toute façon une fibre artistique et surtout une fibre plus qu'artistique autour du jeu, hein, parce que le théâtre, c'est avant tout du jeu. Voilà, et l'aspect ludique qu'on a tous en soi quand on est enfant, ben, le théâtre permet de toujours rester connecté à ça. Et voilà, c'est un peu ça que je sentais à l'âge de 13 ans, qu'il était impossible pour moi de me déconnecter de ce monde du jeu, du ludique, et puis aussi de la façon dont on peut apprendre des autres en se mettant à la place des autres.
Mais il y a deux types de manières de faire. Il y a l'improvisation et il y a le fait de reprendre des textes. Et toi, en particulier, j'ai l'impression que tu as choisi la deuxième phase.
J'ai commencé par l'improvisation et j'ai choisi en effet de. Je suis tombée grâce à un monsieur qui s'appelait, parce qu'il est mort il n'y a pas très très longtemps, monsieur Jean-Claude Nieto. Je suis tombée dans le bain du texte et des grands auteurs. Et j'adore l'improvisation, je m'en sers encore beaucoup au niveau du travail de direction d'acteur. Mais c'est vrai que j'ai un amour immense pour les auteurs.
D'accord. Ton rôle à toi, c'est. Comédienne, metteur en scène, direction d'acteur.
Je suis plus comédienne, je l'ai été, mais c'est vrai, je peux pas tout faire. Et moi, vraiment, c'est mise en scène, direction d'acteur, formation d'acteur.
Ah ben pourtant, moi, j'ai eu l'occasion d'interviewer des gens qui s'occupent de compagnies théâtrales et qui devaient être en Avignon aussi cette année, donc ça sera pour 2021, comme toi. Et ils sont en même temps acteurs et metteurs en scène. Et moi, je me demande toujours comment est-ce qu'on peut faire les deux. Parce qu'on ne peut pas avoir, quand on est sur scène, on ne peut pas avoir le même raisonnement que quand on est metteur en scène. Quelle différence tu fais entre les deux, concrètement?
Moi, je ne pourrais pas. Après, on est tous différents. Mais moi, je ne pourrais pas parce que dans ma façon de faire la mise en scène et de regarder un spectacle que j'ai mis en scène, dans ma façon de m'investir, je ne peux pas m'investir aux deux endroits en même temps.
Voilà. D'accord.
Alors, comment font ceux qui le font? Ça va être très compliqué pour moi de te répondre.
C'est quelle différence tu fais entre les deux? Parce que
Elle est immense. Elle est immense. Pour moi, elle est immense parce qu'en fait, quand on est personnage, quand on est sur le plateau, on est à l'intérieur de ce qu'on dit, on est connecté à cette parole, on est connecté à ce qu'on écoute, on est connecté à son corps, on est connecté à ce qui se passe au moment où on parle et où on entend. Et on doit être connecté qu'à ça pour être dans le vivant, hein, pour être dans la création, pour faire en sorte que chaque mot qu'on va dire au moment où on les dit soit ressenti et tout notre être soit habité de cette parole. Quand on fait de la mise en scène et qu'on regarde ça, on écoute les comédiens, on absorbe ce qui se passe justement dans leur corps, on regarde, moi j'ai fait beaucoup de mime aussi pour pouvoir regarder les corps, les analyser, on regarde aussi, on écoute et on écoute la salle. Et c'est autour de cet aller-retour qu'on travaille. Enfin, moi, c'est autour de cet aller-retour que je travaille. Donc, je ne peux pas faire les deux, c'est impossible pour moi,
D'accord.
vraiment.
Mais quand tu écris un texte, moi je m'interroge toujours sur le metteur en scène, il écrit un texte et tout, est-ce que tu acceptes, est-ce que le comédien doit lire, doit interpréter mot pour mot, ou est-ce qu'il a une marge de manœuvre?
Moi, je n'écris pas. Je prends les textes des autres. Et alors après, sur cet aspect-là,
D'accord.
sur cet aspect-là, ça dépend de l'auteur. Évidemment, quand on travaille un Racine ou enfin un texte en alexandrin, il n'y a pas de marge d'erreur. Il faut être dans le texte, point barre. Et là, c'est indiscutable. Après, quand on est sur un texte contemporain, sur un texte où finalement le travail de métrique, le travail enfin, le travail d'écriture n'est pas autant articulé sur de la métrique, du son. Enfin, là, c'est une question de feeling. On peut se dire, tiens, là, alors surtout quand l'auteur est avec nous, alors là, c'est encore plus chouette parce qu'on peut discuter même. Parfois, le texte résiste, contemporain, j'entends. Mais c'est une bonne chose. Donc, il faut s'acharner à essayer de le dire comme il est écrit, parce qu'on sent que derrière cette difficulté, ça va venir nous dire des choses au niveau du corps, de la respiration, qui va venir donner de la matière au jeu. Donc, c'est tout. Voilà. Il y a pas de. Il faut y aller à l'intuition aussi. Avec l'expérience, l'intuition devient de plus en plus pertinente, évidemment.
D'accord. Justement, tu parlais quand même de l'expression du corps et tout ça. Il y a une grande discussion puisque certains théâtres ont décidé de mettre au premier rang des écrans PC et de retransmettre un jeu d'acteur, donc par exemple un one-man show, par Internet. Et les gens assistent à ce spectacle en étant chez eux. Moi, j'ai toujours une hésitation par rapport au spectacle vivant. Le spectacle vivant, c'est le public qui est dans la salle, le public réagit. Et évidemment, le comédien et l'acteur, comment il va s'adapter à ça. Tu penses que cette idée que de faire par visio du spectacle et du théâtre, c'est une bonne idée?
Oui, parce que je pense que tout ce qui peut faire mieux connaître le théâtre est une bonne idée. Je pense que le théâtre est un art essentiel à l'humain et que on a encore plein d'avenir dans l'aspect vivant parce que justement avec ce monde qui se numérise,
Oui.
je pense que les relations aux autres seront de plus en plus précieuses et de plus en plus choyées, mais qu'il faut aussi que les gens aient le réflexe de venir. Et ça, c'est une culture et c'est pas forcément une culture qui est à la portée de tous. Donc, plus on va multiplier les opportunités de faire connaître cet art magnifique, mieux ça sera. Moi, j'ai connu, tu sais, j'ai connu le théâtre à la radio.
Ah, je
Quand
pensais au
j'étais.
théâtre ce soir, à la télé, moi.
Non,
Oui,
à la radio.
à la
J'ai connu
radio,
le
le
théâtre à
théâtre,
la
la radio,
radio.
d'accord.
On m'avait offert une petite radio et j'écoutais les pièces de théâtre en cachette dans mon lit quand j'étais petite fille. Et je trouvais ça magique. Voilà. Et j'ai connu ça par ça. Donc, vraiment, je pense que. Tous les moyens sont bons pour nous, pour faire connaître cet art magnifique.
Je voudrais revenir sur quelque chose qui est très important que tu as dit. Art essentiel à l'humain. Je serais tenté à dire, ah bon?
Oui, parce que tu as envie de me provoquer, mais
Mais non, je ne suis pas comme ça,
tu.
voyons. Mais non, il n'y a pas plus gentil que moi, voyons.
Ah bah oui, mais la provocation, c'est pas quelque chose de méchant, hein. Au contraire,
Non, non,
c'est
mais.
une façon de rentrer en contact. C'est très bien la provocation.
Ouais, l'art, alors l'art, pour moi, je l'écris avec un grand A, on est bien d'accord.
Ah oui, bien sûr, mais
Vas-y,
oui.
vas-y, vas-y.
Écoute, vraiment, pour moi, ça l'est. En tous les cas, c'est ma vision du monde, hein. Mais non, je dis pas que je dis la vérité. Mais disons que pour moi, ça l'est parce que tout simplement, c'est l'art de la parole et l'art de la parole, c'est l'art de l'échange.
D'accord.
Savoir écouter quelqu'un, c'est accepter d'ouvrir en soi quelque chose de précieux pour absorber le monde de l'autre et peut-être s'empétrir et se métamorphoser à la rencontre de l'autre. Pour moi, la vie, elle est là. Et donc, le théâtre ne fait que travailler autour de ça, entre comédiens, entre metteurs en scène comédiens, dans toute l'équipe à l'intérieur d'une compagnie de théâtre. On apprend à se parler, on apprend à s'écouter, on apprend à faire ensemble et à accepter l'univers de l'autre. Et puis, quand on rencontre le public, limite dans les verres en verre, on s'est vraiment posé la question de comment on va permettre au public d'absorber, d'écouter et de se pétrir de l'univers de ces auteurs et de ces personnages extraordinaires qui traversent le temps.
Alors justement, de verre en verre à quelque chose d'un peu insolite, original. Est-ce qu'il vaut mieux voir une pièce de théâtre en entier ou des extraits? Attention, il y a une question piège.
Ben, moi, je pense qu'il vaut mieux voir du théâtre, point barre.
Voilà. Bonne réponse.
Après, quel que soit ce qu'on va voir, le plus important, c'est d'y aller. Moi, j'adore, on a monté Misanthrope il y a des années, j'adore une pièce de théâtre en entrée, il n'y a aucun problème, surtout des grands textes comme ça. Là, en l'occurrence, sur les verres en verre, en effet, on propose que des extraits, mais c'est aussi pour donner envie au public d'aller voir les pièces de théâtre en entrée, en entier, et ça marche, c'est ce qu'ils nous disent à la fin. Donc nous, on est hyper heureux pour ça, parce qu'on a donné envie à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller voir des classiques. On leur a montré que c'était bien les classiques, c'était jubilatoire, que c'était, ça transportait l'âme et que ça ouvrait des choses en soi qu'on n'a pas forcément pensé qui étaient là, quoi. Donc voilà, donc il faut aller voir les pièces en entier, mais nous, on aide à ça aussi.
D'accord. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, j'ai pas dit toute la vérité, puisque c'est le public qui va choisir les extraits de pièces classiques avec deux verres en verre.
Oui.
Ah bon. Oui,
ça c'est. Ah. Oui, ça c'est. Mais en fait, tout est du jeu. Donc, les verres en verre, c'est un jeu.
C'est exactement ça. Exactement. Là, tout à fait. Oui.
Voilà. Mmh. Donc, c'est un jeu, et c'est un jeu avec lequel qu'on propose au public, et on joue avec le public. Donc, dès le départ, et ça c'est super agréable, ça met un lien, ça crée un lien avec le public, ça devient tout de suite nos partenaires de jeu. Donc, on leur propose un menu, on leur dit voilà, vous choisissez trois œuvres, et nous on va faire un spectacle avec les œuvres les plus plébiscitées. Et on joue vraiment à ça. Donc, les comédiens prennent la commande, hein, donc on s'amuse en disant ouais, c'est comme si on vous prenait une entrée, un plat, un dessert. Donc, ils prennent la commande. Moi, on me répercute les commandes. Au fil, ça dure un quart d'heure à peu près, le temps que les gens arrivent et s'installent. Et puis, on arrête au moment du début du spectacle. On arrête tout. On arrête de prendre les commandes. Tant pis pour les retardataires. Et là, on offre au public des petits apéritifs. Mais apéritifs théâtraux, évidemment. Mmh. Et c'est des petites surprises, voilà. Il y a de la musique aussi, puisqu'on a un musicien qui fait des musiques originales et qui s'adapte justement au menu qu'on va faire. Moi, pendant ce petit quart d'heure, ça dure 10 minutes la préparation du menu, je regarde tous les choix, j'assemble, je distribue les rôles, parce que les comédiens ne savent pas ce qu'ils vont jouer. Hein. Donc j'assemble, je distribue les rôles, j'essaye de faire un rythme chouette où il y a du rire et des larmes qui s'alternent pour que ça, voilà, pour faire l'effet yo-yo dans les émotions du public, parce qu'on aime bien s'amuser. Et puis, au bout de 10 minutes, paf, j'ai fait mon menu, c'est composé de petites cartes. On l'emmène au musicien qui découvre donc le menu, qui va donc lui composer aussi ses musiques en fonction de ce que j'ai fait. Et là, j'ai fait dans les coulisses, j'ai fait un petit tableau où j'ai dit bah, « toi tu vas jouer ça, toi tu vas jouer ça, toi tu vas jouer ça ». Donc pendant qu'on va amener le menu au musicien qui est sur scène, les comédiens découvrent qu'ils vont jouer. Mais c'est là, ça commence.
Il y a un truc qui est fascinant, c'est, alors là, je vais parler d'un élément qui est constitutif de notre corps, c'est le cerveau. C'est inimaginable qu'on soit capable de jouer aussi bien Hugo, Corneille, Marivaux, Molière, comme ça. Et en plus, pas la totalité, mais carrément une partie. Il y a une puce qui est greffée dans le cerveau. Ça
demande beaucoup de concentration.
Bah, oui.
Voilà, ça demande. C'est un spectacle qui est très, voilà, à la fin, qui a usé beaucoup. Enfin, les comédiens sortent vidés. Ça demande beaucoup de concentration, mais vraiment avant tout, et ça n'enlève rien à tout le travail qu'on a fait de préparation. Ça, je crois, hein, que ça fonctionne parce que les textes sont sublimes. Les scènes qu'on choisit sont pas n'importe lesquelles aussi. Hein. On a choisi des scènes qui sont pétries d'un enjeu dramatique très fort. Pour que ça fonctionne, hein. On ne peut pas choisir. Vous savez très bien, dans une pièce de théâtre, il y a des scènes qui sont fortes et puis d'autres qui vont plus servir à l'information ou à la transition. Évidemment, nous, on va choisir celles où il y a des gros enjeux et où il y a des choses à défendre.
Alors, en plus, il y a une originalité. Non seulement ce sont des extraits, c'est le public qui choisit, et en plus, en 2018-2019, ça s'est fait dans une chapelle. La chapelle de l'Oratoire. Non, mais franchement, c'est insolite.
Ouais. Oui, puis on a multiplié les difficultés quand même. Non, c'est super beau, la chapelle de l'Oratoire, c'est magnifique. On adore l'équipe. Ce sont vraiment des personnes, en l'occurrence, eux font de la religion évidemment, mais ils ne sont pas du tout à mettre ça en avant. Mais par contre, ils ont dans leur culture un peu la même chose que ce que nous, on a, hein. C'est l'accueil, l'autre, la chaleur humaine, l'écoute, voilà, l'enthousiasme. Donc, on a une vraie belle rencontre humaine avec eux. Et cette année, on se posait beaucoup la question de est-ce qu'on revient, parce qu'au niveau du contexte sonore, c'est compliqué, la chapelle une chapelle, pour dire un texte. Heureusement, ils nous mettent dans des bonnes conditions, puisqu'en fait, ils nous laissent nous préparer avant. On a quand même, normalement, à Avignon, on n'a pas de préparation, on a 10 minutes avant que ça commence. Et là, quand on est le premier spectacle de la chapelle, on peut avoir un vrai moment où on prépare
D'accord.
nos voix. Et ce qui est vraiment infondamental dans un lieu pareil, parce que tous les jours c'est différent, et puis les gens ne sont pas les mêmes, hein, les comédiens ne sont pas les mêmes un jour à l'autre, donc
D'accord.
vraiment pour que les gens perçoivent le texte. Voilà. Et donc on a dit oui, on a quand même dit oui pour cet Avignon qu'on ne fera pas, mais on le fera l'an prochain, c'est pas grave. Voilà. On a dit.
En 2020, parce que Avignon, c'est un peu comme Cheval Passion au mois de janvier en Avignon, c'est-à-dire qu'il y a des programmateurs qui viennent. C'est toute la programmation de septembre 2020 à juin 2021, ce sont des tournées en France à l'étranger. Qu'est-ce que ça représente pour une compagnie, le fait de ne pas avoir un festival comme le HOF d'Avignon en 2020?
Alors, je t'entends très peu. Je ne sais pas si toi, tu vas m'entendre.
C'est pas grave, non, j'avais posé le téléphone. Ça va mieux là, au premier abord.
Là, oui, ça va mieux.
D'accord. Donc, attends, 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 je repose la question.
Je t'en prie.
Festival d'Avignon, malheureusement, il a été décidé de l'annuler. Et comme tu l'as dit, c'est reporté donc en 2021. Qu'est-ce que ça représente pour une compagnie, le fait de ne pas avoir d'Avignon 2020? Cheval Passion au mois de janvier, c'est comme Avignon au mois de juillet. Les programmateurs, les tourneurs, les producteurs viennent assister au spectacle. Et c'est toute la programmation de septembre 2020 à juin 2021 qui est en jeu. Ce sont des tournées régionales, nationales et même internationales qui sont en jeu. Qu'est-ce que ça représente pour une compagnie comme la tienne de ne pas avoir un festival comme le HOF?
Pour une compagnie comme la mienne, ça représente beaucoup, puisqu'en fait, en effet, toute la programmation à venir, enfin, une partie des enjeux se fait durant Avignon. Donc, c'est beaucoup de choses qui ne vont pas avoir lieu, c'est évident. Après, nous, on est un peu particulier parce que on ne jouait pas sur toute la totalité du festival. Et donc, du coup, on n'a pas mis forcément toutes nos billes là-dedans. Mais je pense que pour la plupart des compagnies, une catastrophe. En plus, il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'investissements financiers qui sont faits et que, suivant les contextes, on ne récupère pas forcément toutes nos billes.
D'accord.
Donc, il y a énormément d'investissements financiers, humains, de travail pour préparer un Avignon. Nous, c'était la troisième année. Donc, c'était l'année un peu de la concrétisation. Hein.
D'accord.
Mais c'est pas grave, on va faire autrement. Et de toute façon, maintenant, enfin, moi, j'ai plutôt tendance à essayer d'adapter ma vie aux événements. Donc, voilà, il va falloir réinventer des choses. De toute façon, on n'a pas le choix. Mais donc, il faut être créatif. Et ça représente peut-être que ce que ça va stimuler, ça va faire naître des idées et des nouvelles choses. Peut-être aussi même par rapport au festival. Je pense j'espère j'imagine qu'il va y avoir des choses qui vont se réinventer aussi autour du
Ah, il y a une
festival.
très grande réflexion en ce moment, c'est vrai,
Voilà.
sur le concept festival, que ce soit pour les compagnies, les théâtres, l'hébergement,
Ben oui.
l'allocation des salles, parce que c'est
Ben
vrai que
voilà.
ça, y a une grande discussion. Comme tu dis, c'est un investissement conséquent. Voilà. C'est un choix délibéré de ne pas avoir fait la totalité du festival. Je me rappelle avoir interviewé des gens qui m'avaient dit, mais c'est un marathon quand on commence. Alors là, cette année, c'était du 3 au 24 juillet. C'était un marathon puisque c'est tous les jours. Et en général, mais bon, parfois, il y en a qui prennent une journée de repos. Mais ils jouent le matin, ils distribuent l'après-midi. Il y a même des gens qui vont faire des spectacles privés le soir. C'était un choix délibéré de ne pas faire la totalité?
C'est ça. Enfin, moi, j'appelais ça les JO du théâtre. Donc, tu vois,
Oui,
c'est pareil.
exact.
Ouais. Mais oui, c'est vrai, hein, c'est ça, c'est vraiment ça. Et sur ce spectacle, Disons que vu ce que je mobilise chez le comédien, je préférais mettre en avant quelque chose de l'ordre du plaisir, de la qualité, que de les épuiser
D'accord.
Sur la totalité. Comme c'était possible à la chapelle de faire comme ça, j'ai préféré faire comme ça, oui, pour garder la qualité, parce que c'est quand même une performance un peu particulière qu'on a là.
D'accord. Bon, moi aujourd'hui j'ai un problème très concret. Si je veux te voir, donc il faut que j'attende juillet 2021. Mais ça va pas du tout, ça me plaît pas ça.
Non, non, tu ne vas pas attendre parce que. Non, non, tu vas pas attendre parce qu'on a déjà des dates, mais en fait, ce n'est pas encore officiel. Ça sera officiel dans quelques jours, mais on a des dates. On a rebondi à Paris, dans un lieu qui s'appelle la Comédie Nation, qui a la chance d'avoir une salle où il peut bouger, la directrice, les directeurs peuvent bouger les chaises, hein. C'est amovible.
Oui.
Donc, ils vont pouvoir faire une implantation adaptée pour l'instant au contexte qui risque de changer en plus.
Oui.
Et donc, normalement, on a des dates fin juillet et des dates, pas normalement, on a des dates fin juillet et des dates fin août qui vont être annoncées bientôt pour jouer les Verts en Vert. Cet été. Et puis, mais on avait vraiment envie de jouer pour marquer le coup aussi par rapport à la crise et puis pour que les gens puissent venir voir du théâtre très vite et que ça, voilà, que ça ouvre encore, que ça ne meure pas, tout ça. Les gens sachent qu'on est là, là prêt à jouer.
Alors justement, pour être là, comment je peux faire pour vous retrouver ou te retrouver? Site internet, blog, page Facebook,
LinkedIn. Oui, on a un site qui s'appelle deversenvers.com. Ça s'écrit deversenvers.com. Les vers comme la versification et les vers qu'on boit. Puisqu'à la fin du spectacle, et ça, je ne suis pas sûre qu'on pourra le faire en juillet et en août, puisqu'évidemment, on va se plier aux contingences sanitaires. À la fin du spectacle, les comédiens qui sont en costume vont offrir un verre à boire au public pour continuer le partage qui a eu lieu précédemment sur la scène et même avant, quand le public arrive.
Donc, voilà. Ça veut dire que non seulement il y a spectacle, et en plus, il y a la rencontre avec les comédiens.
Voilà.
C'est...
Juste après la pièce. Il y a pas de... Ils ne se changent pas rien. Ils sortent et ils vont voir le public.
D'accord. Bah écoute, moi je vais te remercier d'avoir pris ces quelques minutes pour nous expliquer un peu tout ce concept. Évidemment.
Et moi je te remercie immensément aussi de t'intéresser à nous, Alain. C'est très agréable
de
pouvoir parler de ce qu'on aime.
Écoute, c'est toujours très agréable de parler avec des gens qui font des choses insolites. Je crois que vraiment, je vais retenir la phrase que tu as dit. Donc, l'art est un besoin vital pour l'être humain, parce que je trouve que c'est très important. Et aujourd'hui, qu'on n'ait pas de cinéma, qu'on n'ait pas de théâtre, qu'on n'ait pas de lieu de culture, c'est important. Tout le monde s'interroge pour savoir comment il faut faire. Moi, j'ai dit, on peut se mettre en extérieur, c'est plus simple, parce que à l'intérieur, c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc je trouve que non, c'est bien de vous mettre en valeur. Je te dis, j'ai bien aimé ta phrase, l'art c'est un besoin vital pour l'être humain. Et rien que pour ça, je trouve normal comme dire que sur Direct en jeu, la radio insolite, on puisse coller à la réalité de la vie. Merci à toi.
Merci à toi Alain, et à très bientôt j'espère.
Avec plaisir.
Au revoir.